Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Envar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Régis Nicolas. Aujourd'hui, nous recevons Alain Delaye pour parler de Jean de la Croix. Alain Delaye, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous les deux. Alain Delaye, vous êtes docteur en théologie et votre thèse portait déjà sur la foi chez Jean de la Croix. Vous êtes aussi ancien élève de l'école biblique de Jérusalem et vous avez enseigné la littérature biblique à l'Université catholique de l'Ouest. Vous continuez à enseigner dans cette université, mais cette fois, vous enseignez plutôt en ce moment le bouddhisme et l'hindouisme. C'est que vous avez fait un trajet depuis cette thèse sur Jean de la Croix et le livre que vous publiez en 2013, Jean de la Croix, sage, poète et mystique au seuil. Entre les deux, vos publications montrent ce cheminement que vous avez fait d'Occident en Orient et retour donc vers l'Occident, puisque vous avez publié entre autres, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a beaucoup, Zen l'essentiel, mais aussi Sagesse concordante, 4 maîtres pour notre temps, Etihil Soum, Vimalathakar, Krishnamurti, Prajnampan. Donc on voit que vos intérêts sont divers, mais que Jean de la Croix est resté pour vous une référence et c'est de lui qu'aujourd'hui vous allez nous parler dans cette émission.
Alors commençons par le commencement, même si on reviendra, parce que cet aspect, moi vous savez que ça me passionne, notamment les sagesses comparées, les mystiques et sagesses comparées, mais commençons par Jean de la Croix et peut-être nous dire quelques mots biographiques qu'on sache pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette personne, oui. Ce personnage, à quel moment il a vécu, de quel milieu familial il est issu. Donc je vous laisse nous expliquer un petit peu qui est Jean de la Croix avant qu'on parle plus de son expérience mystique et de sa poésie.
Alors donc, Jean de la Croix est un auteur et un mystique du XVIe siècle, hein, espagnol. Donc il est né dans un petit village à Fontiveros, donc pauvrement, une famille très pauvre. Et une famille, donc au départ, son père qui était noble a épousé une roturière, ce qui a motivé le rejet de toute la famille, on va dire, par la famille du père. Et donc, le père et la mère de celui qui deviendra Jean de la Croix, donc, s'est établi pauvrement, a vécu d'un métier de tissant pendant un certain temps. Donc, Jean de la Croix lui-même a eu une enfance, disons, très pauvre. Il a même, à un moment donné, son père est mort et son frère aîné aussi est mort. Et sa mère a dû le mettre dans une école d'orphelins. Donc, il a eu une enfance très pauvre. À partir de là, il est rentré, il a fait des petits boulots, comme on dit. Il a été infirmier dans un hôpital, il a fait quelques études. Et puis, il est entré chez les Carmes, à l'époque, sous le nom de Jean de Saint-Mathias. Donc là, il était...
À quel âge, à peu près?
Il avait une vingtaine d'années, là, voilà.
Et peut-être juste, avant de continuer, pouvez-vous nous expliquer bien ce que ça veut dire, entrer dans les Carmes?
Oui,
parce que tout le monde ne sait pas.
Alors les Carmes à l'époque où Jean de la Croix arrive, les Carmes font partie de ce qu'on appelle les ordres mendiants. Il y en a trois, il y a les franciscains, les dominicains et les Carmes. Et les Carmes eux-mêmes ont une origine en Palestine, Mont Carmel, c'est pour ça qu'on les appelle les Carmes. Mais quand les chrétiens sont revenus de Palestine, ont dû lâcher, disons, la Palestine, et les Carmes se sont rapatriés et ont été intégrés dans l'Église, donc avec les franciscains, les dominicains, dans le créneau des ordres mendiants. Donc nous nous trouvons au XVIe siècle, là, dans ce créneau-là. Et les Carmes, qui au départ étaient des contemplatifs, ils vivaient sur le Mont Carmel, dans des ermitages, dès qu'ils sont arrivés disons, en Europe. À partir de là, ils ont été complètement... ils ont changé d'orientation. Ils sont devenus beaucoup plus prédicants, beaucoup plus impliqués dans la vie paroissiale, etc. Et Jean de la Croix et Thérèse d'Avila sont à une époque où ils déplorent cette espèce de dérive, pour eux, enfin, c'était une dérive, et ils veulent retourner à une vocation plus contemplative, plus... voilà. Donc, Thérèse d'Avila, qui va lancer sa grande réforme du Carmel, va trouver Jean de Saint-Mathias, qui n'est pas encore Jean de la Croix, et va lui dire... Jean de la Croix, enfin Jean de Saint-Mathias, à l'époque, c'est un grand impatient. Il veut à tout prix que ça aille vite. Et quand Sainte-Thérèse le rencontre, il lui dit qu'il a l'intention de rentrer à la Chartreuse. Et Sainte-Thérèse lui dit, écoutez, arrêtez. Moi, je vous propose, je suis en train de réformer le Carmel au niveau féminin. Pourquoi vous ne m'aideriez pas à le réformer au niveau masculin ? Il est jeune, hein, alors. Il a 26 ans.
Mais il devait avoir des qualités déjà exceptionnelles. Oui, pourquoi avoir été remarqué comme ça par Thérèse d'Avila ?
Oui, oui, il avait ça, certainement des qualités. Alors, physiquement, il n'est pas... C'est un petit homme qui n'est pas très, très brillant, disons. Mais probablement, Thérèse d'Avila a saisi que là, il y avait quelque chose de très important. C'est un homme très entier, très déterminé. Et puis, elle sentait... Enfin, il y a des courants qui passent sans doute.
Il n'avait pas écrit encore de poésie spirituelle, de poésie mystique.
Non, pas encore, là. Donc là, il lui dit, d'accord, je marche à une condition, c'est que ça se fasse vite. C'est que votre réforme, que j'attende pas trop longtemps, parce que sans ça, je pars à la Chartreuse. Elle lui dit, non, ça va se faire. Donc voilà, ça se fait, et là, il devient le premier maître des novices à Duruello. Il devient le premier fondateur et maître des novices du premier couvent de Carmes, en quelque sorte, et commence sa grande aventure religieuse. Voilà. Donc, pour situer un petit peu. Alors... que dire aussi, nous sommes dans une Espagne, disons, pour situer un peu quand même le contexte général, nous sommes dans une Espagne qui est très déchirée entre un pouvoir ecclésial et un pouvoir civil qui s'affrontent sur des questions de compétences, sur des questions d'autorité. Et c'est aussi l'époque de l'Inquisition, c'est l'époque des alumbrados, des illuminés, hein. Il y a tout un... C'est très agité, l'Espagne, de cette époque. Et à l'intérieur donc de cette agitation, Thérèse d'Avila va vouloir instaurer une sorte de zone de calme, hein, de zone de contemplation, de zone très retirée pour des femmes et pour des hommes. Et pour des hommes, elle pense que ça peut se faire avec Jean de la Croix.
Oui, et en fait, ce qui est difficile, qu'on a du mal à se représenter peut-être aujourd'hui, c'est que ça n'allait pas de soi. Il fallait demander l'autorisation du pape, il fallait que l'Inquisition ne vous mette pas les bâtons dans les roues. Et on voit très bien, on ne le voit pas trop dans les œuvres de Jean de la Croix, parce qu'il ne s'est pas beaucoup étendu sur la question, mais dans l'œuvre de Thérèse d'Avila, on voit très bien qu'elle a été confrontée à d'immenses difficultés et qu'elle a été très fine politique pour pouvoir contourner ces difficultés. Alors, pourquoi c'est si problématique que des gens veuillent vivre une vie contemplative et mystique pour l'Église ?
Peut-être parce que dans cette Espagne agitée, il y a quand même beaucoup de personnes qui cherchent à prendre du pouvoir quelque part, que ce soit au niveau politique, si ce sont des laïcs, que ce soit au niveau religieux. Puis il y a Rome qui est là, il y a la dualité entre le pouvoir politique, hein, le roi d'un côté, le pape de l'autre, et donc... tout ça, ça s'entrechoque un peu et il y a une difficulté parce que les contemplatifs doivent obtenir des autorisations de gens qui, eux, ne sont pas spécialement des contemplatifs, même s'ils estiment la vie contemplative. Parce que Thérèse d'Avila a quand même trouvé des appuis très forts et au niveau politique et au niveau religieux. Donc, elle a réussi à faire sa réforme avec ça. Et Jean de la Croix, c'est dans sa foulée qu'il a réussi, lui, à faire aussi ce qu'il a fait, quoi.
Voilà. Mais il a quand même été emprisonné.
Alors, là, vous abordez un problème qui est délicat. Il n'a pas été emprisonné tout de suite. Hein. Il a été permettre des novices, il a été recteur de collège, il a été prieur de couvent, il en a fondé et tout. Et puis un jour, il a plus de 30 ans, les carmes chaussés prennent... Alors, il y a les carmes chaussés non réformés et il y a les carmes déchaux réformés, donc avec Jean de la Croix en tête. Et à un moment donné, les carmes chaussés se rendent compte que Jean de la Croix est un peu le pilier de la réforme, du côté masculin. Contre Thérèse d'Avila, ils ne peuvent pas grand-chose, sinon par la bande. Mais au niveau des carmes même, de la branche masculine, ils disent « Oh là là, il faut arrêter ça d'un coup ». Donc, ils kidnappent Jean de la Croix. Il est, à ce moment-là, il est à Tolède. Thérèse d'Avila lui a demandé d'être aumônier du couvent de l'Incarnation, où elle-même a vécu longtemps. Et une nuit, ils le capturent, ils le mettent dans un cachot, où il va rester 9 mois, et pendant 9 mois, donc, privé, enfin, très peu de nourriture, pas d'air, pas de lumière, donc la nuit obscure, le thème de la nuit obscure est né dans ce cachot, hein. Il faut voir ça, c'est la grande métaphore, ça s'enracine dans une expérience humaine très très concrète, et là, pendant 9 mois, ils vont le chambrer pour qu'il renonce à son projet de réforme. Il refuse, il résiste, et au bout de 9 mois, il arrive à s'évader. Donc une nuit, et là encore, le poème de la nuit, il est sorti de deux nuits, là, avec, il a réussi à s'échapper de son cachot, et il est allé se réfugier chez les Carmélites de Tolède, et là il a repris sa vie de fondateur, sa vie de responsable aussi religieux, mais c'est dans ce cachot qu'il a composé l'essentiel de ses poèmes.
Alors on va en venir à cette dimension maintenant, oui, de sa pensée.
Oui.
Donc je crois qu'un des points les plus importants peut-être à évoquer au début, qui semble-t-il l'a toujours accompagné dans sa pensée, c'est qu'il s'inscrit dans le courant apophatique, cette grande tradition théologique qui remonte à l'Antiquité, hein, avec le pseudo Denis, qui dit qu'au fond, on ne peut rien savoir de Dieu. Dieu est inconnaissable.
Voilà. Tout à fait.
Alors je vous laisse expliquer un petit peu de ce courant apophatique chrétien et comment Jean de la Croix s'enracine dedans.
Tout à fait. Donc oui, ça remonte même avant le pseudo Denis, puisque ça remonte en fait à Clément d'Alexandrie. Hein, nous sommes au deuxième siècle. Hein, et puis après, vous avez Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze. Hein, après, donc, ben, le pseudo Denis, comme vous disiez. Et puis après, il y en aura d'autres. Il y aura Maître Eckhart, il y aura les Rénans. Il y a toute une tradition apophatique extrêmement forte. Et au temps où Jean de la Croix vit, il n'est pas le seul. Hein, il n'est pas le seul. Il fait partie d'une tradition en Espagne à l'époque. C'est lui qui a émergé, mais disons, il y a François de Osuna, il y a Louis de Grenade, Louis de Léon, il y a Bernardin de la Rouède. Il y a tout un ensemble de mystiques qui sont dans ce courant, plus ou moins. La particularité peut-être de Jean de la Croix, c'est qu'il y a une sorte de radicalisme de son agnosticisme mystique, on va dire, hein, qui fait qu'il a des textes qui sont très très raide pour la... Dieu, de toute manière, on ne peut absolument rien en savoir. Si vous pensez que vous pouvez en imaginer quelque chose, en penser quelque chose ou en dire quelque chose, non seulement vous êtes dans l'illusion, mais vous faites tort. Vous vous nuisez à vous-même parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Ce qui n'empêche pas, à côté, de développer une théologie tout à fait traditionnelle, hein, de la Trinité, de l'Incarnation. Donc, il a plusieurs casquettes.
Comment il concilie ça? Comment est-ce qu'on peut à la fois développer une théologie de la Trinité, de l'Incarnation, qui est très explicite sur Dieu, qui nous, oui, dit un peu qui est Dieu, d'une certaine,
oui,
manière,
oui, oui,
et en même temps dire on ne peut absolument rien connaître de Dieu?
Disons qu'il n'y a pas de conciliation rationnelle, hein, à mon sens. Il y a simplement ce paradoxe d'un homme qui fait l'expérience du nuage d'inconnaissance dès qu'il a un Dieu, et en même temps que tout de même, par la voie poétique, par la voie théologique un petit peu, on arrive à dire quelque chose. Mais ce qu'on en dit, comme il le dit, c'est par voie de similitude, de comparaison, mais c'est presque rien.
C'est un langage symbolique.
Voilà. Mais il dit, c'est par comparaison, c'est pas par raison. Sur un plan strictement métaphysique et théologique, c'est nada. Il n'y a rien de valable.
Oui, et en même temps, vous expliquez bien que la figure du Christ a une, oui, très grande importance, parce que précisément, oui, ce n'est pas Dieu d'une certaine façon. C'est le divin tel qu'il peut se donner de manière visible et accessible. Et c'est peut-être ce qui fait d'ailleurs la spécificité de cette mystique, en fait de la mystique chrétienne dans le sens très large. On voit bien que le Christ permet de penser quelque chose du divin sans parler de Dieu, parce que c'est impossible de parler de Dieu. Mais c'est possible de parler du Christ. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça la fonction du Christ dans l'œuvre de Jean de la Croix ?
Alors là, la position, la théologie saint-juaniste du Christ est tout à fait particulière. Parce que le Christ, pour Jean de la Croix, c'est avant tout le bien-aimé. Hein, c'est le Verbe. Alors bien sûr, c'est aussi Jésus de Nazareth. Hein, il a un poème, le Pastor Sic, donc qui met en scène la passion et tout. Donc il est vraiment très branché. Il a même fait un dessin du Christ en croix. Il est très branché sur l'humanité de Jésus. Mais le paradoxe est que lorsqu'il parle, il en parle peu, hein, de l'humanité de Jésus, il en parle assez peu. Mais lorsqu'il en parle, c'est toujours, je dirais, pour orienter vers la nuit. C'est-à-dire, non pas dire que... Alors, il dit, oui, que Jésus est la seule parole, vraiment, la seule révélation du Père. Mais en même temps, il le dit dans un contexte... alors, c'est assez curieux. Il le dit dans un contexte, il a un chapitre, par exemple, où il explique pourquoi il ne faut pas prêter attention aux révélations, aux paroles qu'on peut entendre, aux visions qu'on peut avoir. Pour ça, il est aux antipodes de Thérèse d'Avila. Il est vraiment celui qui il en a eu des extases et des visions, mais il n'a aucune considération pour ce genre de choses. Et il dit surtout, vous ne mettez pas dans ce truc-là, parce que c'est une affaire qui est piégée. Il faut rester dans la nuit de la foi. Hein. Là, c'est ce côté-là. Et quand il parle de Jésus-Christ, alors de Jésus, comme vous dites, révélation du Père, parole du Père, il dit, mais voilà... Des visions, des révélations, des auditions mystiques, tout ça, ça n'a pas d'intérêt parce que le Père a parlé, une seule parole est valable, c'est Jésus, il n'y a pas besoin d'autre chose, ça suffit. Mais en même temps qu'il dit ça, il réfère à Jésus pour dire qu'il faut rentrer dans la nuit de la foi. Donc Jésus n'est pas celui qui donne des lumières sur Dieu, sur le Père, sur ce qu'il est, sur tout ça. Il est quelqu'un qui invite à rentrer dans la nuit de la foi, qui est une nuit de l'amour, qui est une nuit de l'espérance, mais qui n'est pas du tout un lieu où on va avoir des connaissances particulières. Donc la fonction de Jésus, pour lui, c'est de ramener à la contemplation mystique. C'est assez particulier.
Pastorcico solo está pena, ajeno de placer y de contento, y en su pastora puesto el pensamiento y el pecho del amor muy lastimado. Llora por haberle aborriagado, que no le pena ver si así afligido, aunque en el corazón está herido, mas llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado, de su bella pastora, con gran pena se deja maltratar en tierra ajena el pecho del amor muy lastimado.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie ce matin d'Alain Delaye. Nous parlons de Jean de la Croix, l'occasion de la sortie de votre petit livre dans la collection Sagesse du Seuil. Alain Delaye, donc Jean de la Croix, sage, poète et mystique. Alors on a commencé, Lélie Anvar, à parler un petit peu là de la dimension mystique. Je suis sûr que vous avez un texte pas loin.
Oui, en fait, on a parlé de l'aspect apophatique. Et moi, j'ai plutôt choisi de vous apporter dans un premier temps, avant d'arriver au cantique, évidemment, dans un premier temps, dans un commentaire que vous citez assez longuement dans ce livre, Jean de la Croix, sage, poète et mystique, qui est une sorte de méditation, en fait, sur l'œuvre de saint Jean. J'ai choisi d'apporter un passage dans lequel on voit que, étrangement, cette façon de dire qu'on ne peut rien en dire mène à l'idée qu'en même temps, on peut tout en dire, c'est-à-dire que tout est Dieu. Et il y a une forme de ce qu'on a appelé le panthéisme, qui d'ailleurs le rapproche beaucoup de la pensée de la mystique soufie. Vous nous direz peut-être tout à l'heure s'il y a vraiment une influence andalouse là qui a joué. Toujours est-il, ou alors c'est juste une expérience. Toujours est-il que c'est très intéressant. Vous montrez comment ça se retourne.
Mais c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, parce que je sais que vous connaissez bien le sujet, c'est comme dans l'Inde. Puisque Absolument. Le Brahman est inconnaissable, il y a 1000 manifestations Exactement. Du Brahman à travers 1000 déités. Exactement. On retrouve cette même idée, puisque Dieu est inconnaissable, il a 1000 manifestations et on peut tout en dire.
Oui, et d'ailleurs, ça c'est très hétérodoxe finalement.
Oui.
En tout cas dans le christianisme. Dans l'hindouisme, c'est très
vrai.
Naturel.
Ah, oui.
Mais dans le christianisme et aussi dans l'islam, c'est très hétérodoxe. Et c'est vraiment une spécificité de l'expérience mystique, peut-être encore plus que du discours mystique. Oui. Mon aimé, les montagnes. Les montagnes sont hautes, abondantes, amples, belles, gracieuses, florissantes et odoriférantes. Mon ami en ces montagnes, pour moi. Les vallées solitaires, ombragées, tranquilles, agréables, fraîches, ombrageuses, abondantes en eau douce et dans la variété de leurs vergers par le doux chant des oiseaux, donnent un grand délassement et une grande délectation aux sens. Elles causent un rafraîchissement et un repos dans leur solitude et leur silence. Mon ami est ces vallées pour moi. Les îles prodigieuses sont entourées de la mer et au-delà des mers, fort écartées, éloignées de la communication des hommes, il y naît et croît des choses très différentes des nôtres, de façon prodigieuse. Et ainsi l'âme appelle Dieu prodigieux. Les fleuves, au bruit puissant, la voix de ces fleuves couvre toutes les autres. Ainsi la voix de Dieu est pleine de grandeur, de puissance et de gloire, et remplit l'âme de pouvoir et de force. Et le sifflement des vents porteurs d'amour, le vent qui siffle, se fait entendre et touche, rafraîchit. Ainsi, Dieu. Quand vous pensez que c'est un commentaire, vous vous dites que ça appelle quand même un peu un commentaire aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Mais vous savez, il y a quelques passages de commentaires comme ça qui ont un certain lyrisme et qui presque sont, je dirais, sont proches des poèmes qui les ont inspirés. Hein, donc là, les strophes, ces commentaires, en fait, commentent des strophes qui sont parmi les plus belles hein, du cantique spirituel. « Miama dans las montagnes »,« Mon bien-aimé, les montagnes ». Et donc là, il développe les métaphores. Ce n'est pas des comparaisons. Hein. Il n'ira pas dire « Mon bien-aimé est comme les montagnes ».« Mon bien-aimé, les montagnes hein. ». Oui. Il y a une sorte d'identification. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, vous évoquiez le mot de panthéisme. Hein. Je crois qu'il y a... c'est ça. Hein. Chez Jean de la Croix, comme je disais, il y a plusieurs registres. Il y a le théologien qui reste quand même orthodoxe. Hein. Il a appris à Salamanque un certain nombre de concepts théologiques. Il les ressort à l'occasion et de manière fort intelligente, je dirais. Mais il y a aussi le mystique qui, à un moment donné, opère la fusion. Quoi. Et là, il dit des choses comme mon bien-aimé, les montagnes, hein, où il dit encore « Dieu est toute chose en un être simple hein. ». C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de distinction ontologique. Hein. Il y a des phrases comme ça.
Et alors justement, on voit ici dans ce qu'on a appelé parfois panthéisme et qui est peut-être plus proche de ce qu'on appelle justement dans le soufisme le monisme existentiel ou l'unité de l'existence et qui est la grande doctrine de Ibn Arabi. Mais Ibn Arabi, le grand cheikh qui a vécu donc au XIIe, XIIIe siècle de notre ère, est originaire de l'Andalousie. Oui. Donc il est aussi le fruit de cette spiritualité, cette mystique musulmane qui s'est développée en terre andalouse. Oui. Est-ce que Jean de la Croix avait connaissance de ces textes? Est-ce qu'il était influencé par ces textes? Parce que c'est vrai qu'on a on pourrait dire que c'est un texte d'Ibn Arabi, on n'en serait pas étonné.
Oui, tout à fait, oui. Je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas, je veux dire, qu'il y ait de contact littéraire, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il ait connu. Par contre, il y a une connaturalité, il y a une... je dirais, il y a quelque chose de très profond. D'ailleurs aussi avec Rumi, que vous connaissez bien, oui, et avec Ibn Arabi, avec Al-Hajj, hein, avec les soufis, je pense qu'il y a une communauté d'expérience qui est extrêmement forte. Mais à ma connaissance, au moins, j'ai quand même étudié pas mal de textes et tout, et je n'ai pas trouvé de pistes pouvant faire dire qu'il a eu des contacts directs avec des textes soufis.
Donc c'est plus que le fait qu'ils vivent la même expérience, voilà, et donc ils l'expriment avec leur langage théologique divers, oui. Oui. Mais au fond c'est une communauté d'expérience plutôt qu'une influence historique.
Tout à fait, enfin, c'est ce que je crois. Oui.
Oui. Oui, c'est vrai que la parenté est très grande et évidemment c'est tentant de se dire que...
Oui, qu'il y a pu avoir des influences.
Oui, non, c'est tentant de se dire qu'en fait ils ont vécu la même expérience. Ça c'est... Je dirais que c'est infiniment plus intéressant, tout parce que ça donne une universalité,
oui,
à leur,
oui, oui,
à l'expérience vécue. D'un coup, on se dit, tiens, ils sont allés dans le même,
oui,
monde.
Mais c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que les traditions religieuses divergent, mmh, d'un point de vue culturel.
Oui.
Elles convergent par la radicalité de l'expérience spirituelle et l'esprit humain est universel. Oui. Donc, pour revenir à Saint-Jean-de-la-Croix, est-ce qu'on pourrait développer un peu ce thème de la nuit qui est,
oui,
si important pour lui?
Oh là, oui.
Et est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
C'est cette, je crois, cette expérience du cachot de Tolède qui a été absolument capitale pour lui, où il a fait certainement des expériences fortes, hein, très très fortes. Hein. À la fois une immense détresse et à la fois les 30 premières strophes de son cantique spirituel ont été composées dans ce cachot et ont été composées alors qu'il n'avait rien, il ne pouvait pas écrire, hein, il mémorisait au fur et à mesure. Donc...
Comme Solzhenitsyn qui a écrit son livre L'archipel du Goulag dans sa tête,
voilà,
avant de l'écrire.
Voilà, on est dans la même conjoncture. Ouais. Hein. Donc il y a à la fois une expérience forte et il y a à la fois le désir profond, la détermination de traduire en mots, de ne pas en rester au silence à la transcendance de l'expérience, mais de lui donner déjà une forme. Et une forme remarquable, parce que les cantiques spirituels... Alors donc, pour revenir à votre question sur la nuit, bon, donc voilà les racines, je dirais, un petit peu humaines et de cette métaphore. Alors, à partir de là, il a construit, disons, je pense qu'il est un des rares à avoir utilisé la métaphore de manière aussi importante. Hein. Mais on trouverait d'autres parallèles, mais ça va très très loin. Par exemple, il va dire à un moment donné, quand il va essayer de dire quand même quelque chose de Dieu, bien que Dieu soit inconnaissable, il dit « Dieu est une nuit pour l'âme ». Donc, il passe d'un langage négatif, Dieu n'est pas ce qu'on pense, il n'est pas ce qu'on croit, il n'est pas ce qu'on imagine, mais il trouve une métaphore, Dieu est une nuit pour l'âme. Et c'est une métaphore très concrète, puisqu'il va la développer dans son poème donc, de la nuit obscure. Et cette nuit, c'est non seulement Dieu, mais c'est le chemin balisé par Dieu pour aller à lui. Et donc, il va sortir de nuit, il va marcher de nuit, aux nuits qui a guidé, aux nuits plus aimables que l'aurore, aux nuits qui a uni l'ami avec l'aimé, l'aimé en son ami transformé. Donc, pour lui, c'est dans la nuit que se consume, en quelque sorte, que se consomme l'amour le plus fort, le plus intense, le plus flamboyant qu'il ait connu. Et donc, il va y avoir un recouvrement de cette métaphore de la nuit, avec la métaphore de la flamme, d'ailleurs, qui apparemment est au contraire un symbole lumineux. Mais il va parler du rayon de ténèbres, du pseudo-Denis, il va parler de la flamme obscure, donc il va rejoindre les deux métaphores et il va faire de la nuit le lieu, en quelque sorte, de cette transformation, de cette union transformante, qui est le concept central de sa théologie.
Mais alors, pourquoi la nuit? Expliquez-nous concrètement dans sa vie spirituelle ce que signifie la nuit.
Alors, la nuit, concrètement, pour lui, c'est ce qu'il appelle la contemplation. Il a un autre mot pour désigner ça. Disons, quand on passe du registre de la métaphore poétique au registre de la psychologie, parce que c'est un psychologue quand même, c'est il décrit un certain nombre d'états que traverse celui qui va vers Dieu, entre autres la nuit des sens, la nuit de l'esprit. Mais dans ces deux nuits, hein, purifiantes, transformantes, disons, le principal outil, le principal instrument et disons ce qui fonde et ce qui explique religieusement la nuit, c'est ce qu'il appelle par ailleurs la contemplation, qui est une connaissance obscure et amoureuse de Dieu qui se donne par-delà tout concept, par-delà toute image, et qui met dans un état de quiétude qui est transformant. Et quand cet état de quiétude ne reste pas simplement ce que Thérèse d'Avila appelle une oraison de quiétude, c'est-à-dire un apaisement, voilà. Alors là, on arrive à des états qui sont très forts, puisqu'on parlait de l'hindouisme à l'instant, qui correspondent à des samadhis, mais de manière très, très intense, et qui sont proprement transformants. Donc, la nuit n'est pas seulement le climat dans lequel se développe la vie spirituelle, elle est cette contemplation qui agit au cœur de l'être, qui s'y dispose, bien sûr, et qui le transforme intérieurement jusqu'à le faire devenir, jusqu'au moment où la nuit devient apaisée, devient sereine, et où la flamme vraiment devient, embrase la totalité de l'être. Quoi. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Ce qui est compliqué, c'est que effectivement, c'est le concept de nuit peut avoir plusieurs sens.
Oui.
Et donc, je voudrais savoir ce qu'il a aussi le sens, je dirais, du doute, le sens de où on n'a plus aucun repère, où on se sent errant et qu'il faut adhérer dans la foi pure. Vous voyez, est-ce que, par exemple, la nuit de l'esprit, ce serait ça?
Oui, il y a ça dans la nuit de l'esprit. Mais alors là, disons, nous sommes... il a balisé, Jean de la Croix, a balisé un itinéraire. Hein. Alors on peut discuter de cette succession d'étapes. Hein, aujourd'hui, on est... bon. Mais donc il y a une nuit des sens, il y a une nuit de l'esprit. Et en effet, ce que vous appelez la nuit de l'esprit, c'est la nuit dans laquelle il n'y a plus aucun repère. Hein. C'est-à-dire, bon, la nuit des sens, c'est la nuit, c'est un sevrage relativement extérieur. C'est-à-dire, on perd le goût des choses, on perd le goût de la religion, on perd le goût de beaucoup de choses. Hein. Mais on est encore soi-même, on est encore en marche. Tandis que dans la nuit de l'esprit, c'est le trou noir, quoi. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est la détresse absolue. Et là, alors, ce que vous dites du doute, mais c'est plus que du doute. C'est... Parce que le doute, ça garde quand même une connotation intellectuelle. Tandis que là, c'est la grosse déprime, quoi. Mais
un
mystique.
Peu comme ce que Thérèse de Lisieux aussi raconte, qu'elle a traversé l'enfer, ouais. Et qu'elle a compris l'athéisme, ouais. En vivant intérieurement cet état de nihilisme.
Voilà.
Et donc, ce que dit Jean de la Croix, c'est qu'il y a des étapes de la vie spirituelle, oui. Dans lesquelles, pour progresser, il faut passer par ces nuits, c'est-à-dire par ces obscurités, par ces états de, on pourrait dire, de dérélection, finalement, comme le Christ sur la croix, qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Tout à fait. Il y a un anéantissement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mystique qui débouche réellement sans un anéantissement. Mais ça, on trouve ça chez les soufis. Hein.
La nuit, c'est ces ténèbres qu'on traverse, mais aussi, est-ce que c'est aussi la mort à soi qui est métaphorisée par la nuit ?
C'est la fin de l'ego. Hein, c'est-à-dire, c'est la fin de l'ego. Hein, c'est ce que les bouddhistes diraient. Voilà,
c'est le lâcher de l'ego.
C'est le lâcher total
et c'est le début
l'ego.
De l'éveil. Quoi.
Voilà.
Et je dirais que ça éclaire, du coup, à rebours, ce qui a eu évidemment une influence, pour le coup, directe et majeure sur l'œuvre de Jean de la Croix. C'est le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire, le Cantique des Cantiques se passe aussi dans une nuit de quête, hein, puisque la bien-aimée est à la recherche de son bien-aimé, et ça se passe plusieurs fois, deux fois. Hein. Il y a ce mouvement vers l'autre qui passe par tout ce que Frédéric vient d'évoquer, c'est-à-dire le doute, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, est-ce que vous l'avez trouvé, je ne sais pas où il est, on m'a frappé. Donc cette quête,
cette errance
qui se fait, le Cantique des Cantiques nous le dit de manière très forte, ça se passe dans la nuit, et c'est vraiment la nuit de l'âme. Et d'un coup, ce que vous me dites m'éclaire sur le fait que aussi la nuit obscure aussi est influencée par le Cantique des Cantiques, pas seulement le Cantique...
C'est une des grandes sources, le Cantique des Cantiques.
Oui.
Vous savez que Jean de la Croix, à la fin de sa vie, là, quand il est là, il est à Ubeda, il va mourir, et on lui lit les prières des agonisants, hein, comme on fait traditionnellement dans ces cas-là. Hein, il dit, mais arrêtez donc ça, lisez-moi donc plutôt le Cantique des Cantiques. Et il s'est fait lire quelque part. Et il est mort en écoutant la lecture du Cantique des Cantiques qui l'a inspiré toute sa vie. Et les grandes métaphores, non seulement la métaphore de la nuit, mais la métaphore du jardin, la métaphore de la bien-aimée, la métaphore de la colombe. Il y a des tas d'images qui sont prises au Cantique des Cantiques qui a été pour lui une des grandes sources littéraires de sa mystique, de sa poésie.
Alors peut-être qu'on peut entendre la nuit obscure elle-même avec les mots, presque les mots de Jean de la Croix, puisque ces mots, évidemment, vous les avez traduits vous-même. Mmh. Je les lis dans votre traduction. Par une nuit obscure, enflammée d'un amour plein d'ardeur, ô l'heureuse aventure, j'allais sans être vue, sortant de ma maison apaisée. Dans l'obscure et très sûre, par l'échelle secrète déguisée, ô l'heureuse aventure, dans l'obscur en cachette, ma maison désormais apaisée. Dans cette nuit heureuse en secret, car nul ne me voyait, ni moi ne fixais rien sans autre lueur ni guide que celle qui, en mon cœur, brûlait. Celle-ci me guidait, plus sûre que celle de midi, au lieu où m'attendait, moi, je savais bien qui, à un endroit où nul ne paraissait. Ô nuit qui a conduit, ô nuit plus aimable que l'aurore, ô nuit qui a uni l'ami avec l'aimé, l'aimé en son ami transformé. Contre mon sein fleuri qui entier pour lui seul se gardait, il resta endormi. Moi je le caressais, et l'éventail des cèdres l'éventait. L'air venant du créneau, quand mes doigts caressaient ses cheveux avec sa main légère à mon cou me blessait et tenait en suspens tous mes sens. Je restais, m'oubliais, le visage penché sur l'ami. Tout cessa, je m'abandonnais, délaissant mon souci parmi les fleurs de lys oubliées.
Tras de un amoroso lance, hino de esperanza falto, volé tan alto, que le dio la caza alcance a... Para que yo alcance dir y con todo en este trance en el vuelo que le faltó mas el amor fue tan alto que le dio que se le canta
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie d'Alain Delaye pour parler de Jean de la Croix et je rappelle votre ouvrage Jean de la Croix, sage, poète et mystique, la collection Point Sagesse du Seuil. Lélie Anvar.
Oui, je voulais attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que ça ne s'entend pas en français, mais vous avez bien pris soin de l'écrire au féminin, puisque le jeu du poème, que ce soit d'ailleurs de la nuit obscure ou le jeu qui s'exprime dans la chanson de l'âme, est toujours un féminin, comme si l'âme, comme si Jean de la Croix éprouvait son âme comme étant profondément du côté du féminin.
Tout à fait, c'est une particularité de ses poèmes. Il est difficile hein, de... Enfin, je pense qu'il a été beaucoup influencé quand même là par le Cantique des Cantiques, hein, quand même, comme on le disait à l'instant. Et il est vrai que dans les identifications, quand lui-même s'identifie, c'est toujours l'anima, hein, c'est toujours la part féminine. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de... à ma connaissance, il n'y a pas de poème où il... où il se situe de manière différente. Quoi. Voilà.
Et oui. Quelle est la... C'est-à-dire, ce que vous dites, ça veut dire qu'il se met du côté de la quête de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. C'est une métaphore de l'âme ou... Pourquoi l'âme doit-elle être féminine?
Une âme doit être féminine parce que l'essentiel de la communication avec Dieu, l'âme est passive. Hein. Passive au bon sens du terme. Hein.
Elle reçoit.
Elle reçoit, voilà, elle est réceptive, on va dire. Or, dans le jeu sexuel, c'est la femme qui reçoit. Hein, enfin, et donc, je pense que c'est ça. Et Jean de la Croix insiste beaucoup, en particulier dans la Vive Flamme, il a des aspects très, très durs, même très polémiques, qui n'apparaissent pas dans les autres traités, où il s'en prend à ce qu'il estime être de faux directeurs spirituels et qui veulent à tout prix faire que les gens travaillent, fassent de la cèse, tout ça, travaillent à la force du poignet, alors que l'essentiel, c'est Dieu qui le fait. Et l'essentiel de ce que l'âme doit faire, c'est de se disposer à recevoir. D'ailleurs, même dans le renoncement, quand il parle par exemple des appétits, il dit pour être libre, il faut quand même arriver à se dégager d'un certain nombre d'enfantillages. Quoi, hein. On ne peut pas rester comme ça, scotché à des choses qui ne méritent pas l'attention. Mais il dira en même temps, finalement, on est toujours en train de poursuivre quelques appétits et il n'y a qu'au mariage spirituel, c'est comme ça qu'il appelle l'union à Dieu. Il n'y a que là que Dieu peut vraiment casser, finir de rompre les derniers liens qui nous lient à nos petits attachements. Et il y a une belle strophe du Cantique spirituel où il dit qu'après une union comme ça, une oraison d'union, d'un seul coup, il est sorti dans le monde, il a eu une espèce de contact avec Dieu, il est sorti dans le monde et il dit, et là, dans toute cette plaine, j'ai vu que je n'avais plus de troupeau, je ne gardais plus de troupeau, j'étais complètement dégagé de toute, non seulement de toute responsabilité, mais de tout attachement surtout.
Donc, est-ce qu'on peut dire que ça, il l'a aussi hérité de Thérèse d'Avila, c'est-à-dire ce que j'appellerais une mystique de l'abandon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choses, il faut laisser les choses se faire en soi. C'est très très fort chez Thérèse d'Avila, c'est même théorisé, un peu moins chez Jean de la Croix. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a hérité d'elle ou pareil, il a fait son propre cheminement et il est arrivé aux mêmes conclusions?
Alors là, vous posez un problème plus large, qui est le problème de la relation entre Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Donc, ils ont eu des relations fortes au moment de la fondation. De temps en temps, ils se sont rencontrés. Jean de la Croix même cite explicitement une des grandes expériences de Thérèse d'Avila que vous connaissez, puisqu'elle a fait couler beaucoup d'encre, c'est sa transverbération, n'est-ce pas?
C'est-à-dire, m'expliquer.
La transverbération, eh bien, Thérèse d'Avila dit à un moment donné, elle a une extase et elle voit un ange qui lui apparaît et qui lui plonge un dard dans le sein, n'est-ce pas? Et qui, voilà, et ça l'embrasse d'amour, n'est-ce pas? Donc, évidemment, on a fait beaucoup de commentateurs, psychanalystes et autres, ont vu là une espèce d'orgasme, on va dire... mystique entre guillemets ou pas mystique pour eux,
érotique
on va dire, et Jean de la Croix cite ça et comme étant une des grandes expériences pour lui, c'est du sérieux, hein. c'est pas tout ça, donc on s'en rend compte qu'ils ont eu des contacts et Thérèse d'Avila même ils ont eu des discussions profondes certainement, mais rien n'est apparu, pas grand chose n'est apparu dans les écrits. Et donc au niveau des contacts, on peut dire il y a eu contact, on le voit, il y a des traces, mais dire, comme vous dites, qu'il y a eu une dépendance, je dirais qu'il y a eu une convergence plutôt qu'une dépendance, entre eux quoi. Hein. Il n'est pas indicible de Thérèse d'Avila, il faut quand même le dire.
Ah oui, non, c'est pas loin de moi.
Non, mais c'est pas ça que vous dites, mais je veux dire...
Oui, non, mais il peut y avoir une conversation comme il y en a eu dans d'autres exemples dans l'histoire de la spiritualité. C'est-à-dire vraiment une conversation intime dans laquelle il n'y a plus de maître et de disciple. Il y a juste deux êtres qui sont branchés sur le même absolu, qui parlent le même langage, je dirais, qui entrent dans un vrai dialogue. C'était ça le sens de ma question. Oui. C'est-à-dire que ce dialogue donc, a eu vraiment lieu entre
eux. Oui, il a eu lieu. Il a eu lieu et même il a eu lieu à un point tel que ils se sont retrouvés quand même avec des différences. Hein. parce que bon, ils s'approuvent l'un l'autre, mais par exemple, Thérèse d'Avila trouvait que Jean de la Croix était un peu trop pénitent, un peu trop ascète. Elle lui dit, mais il faut vous calmer, vous allez vous rendre malade si vous continuez comme ça. Elle était beaucoup plus souple que lui. Et lui, un jour, par exemple, il l'a trouvée trop dévote, tout ça. Et un jour qu'il lui donnait la communion, il a coupé l'hostie en deux pour la mortifier. Enfin, c'est des petites bricoles, hein, mais voilà.
Donc, si je comprends bien tout le parcours spirituel que propose Jean de la Croix, oui. C'est un parcours de divinisation de l'homme, un peu à la manière dont les orthodoxes en parlent. Oui. C'est l'homme qui progressivement est dépouillé de tous ses attachements pour s'ouvrir complètement à la grâce divine et que Dieu vive en lui.
Voilà, exactement.
Il participe pleinement à la vie divine. C'est tout ça le but de tout ce chemin qu'il décrit par étapes.
Oui. Avec ceci en plus, c'est que cette divinisation qui paraît si détachée, avec tant de dépouillement, eh bien, retrouve le monde, retrouve la saveur des choses, retrouve le monde à l'état, je dirais. Il a une formule, Jean de la Croix, qui est intéressante. Il dit finalement, c'est beaucoup plus intéressant de connaître les créatures par Dieu que de connaître Dieu par les créatures. Parce qu'à ce moment-là... le monde, c'est mi amas de las montagnes, mais mon bien-aimé les montagnes, c'est-à-dire que le monde entier est retrouvé, mais il est retrouvé avec un regard différent.
Transfiguré, c'est-à-dire voilà. C'est comme le regard a changé, puisqu'il est brûlant d'amour, c'est-à-dire qu'au fond, exactement. Il est habité par l'amour de Dieu. Voilà. Du coup, il regarde le monde dans cet amour, avec ce regard d'amour sur tout, exactement. Comme François d'Assise.
Tout à fait. Il parle même d'un océan d'amour, hein, une mer d'amour. Quoi. C'est-à-dire qu'à partir de là, il dit...
Et là, on refait le pont avec l'Orient. Oui. C'est ce que nous disent les hindous, les bouddhistes. C'est qu'une fois qu'on est éveillé, qu'on est dans ce regard où on ne s'identifie plus à l'ego, on est habité par cet amour universel pour tous les êtres. C'est vraiment quelque chose que vous avez repéré comme point commun à travers d'autres ouvrages hein, dont on a parlé tout à l'heure, comme point commun de toutes les grandes expériences spirituelles.
Oui. Mais oui, c'est-à-dire que ça ne reste pas fermé, quoi. Hein. C'est au contraire, c'est une démarche d'ouverture. Le sentier qui au départ de la montée du Carmel monte, qui est le sentier du rien, qui est très, très, apparemment très, très étroit, mais il débouche sur la montagne où tout est là.
Voilà, c'est ça. Donc la nuit n'est qu'une étape, en fait, un peu alchimique, on pourrait dire, de transformation.
Exactement. Et d'ailleurs, j'ai un chapitre que j'ai appelé « Le passager de la nuit », c'est-à-dire... la nuit est un passage, quoi. Hein. Mais l'aventure, la dix choses aventura, hein, l'aventure heureuse, elle est profondément joyeuse.
Alors, plusieurs fois, vous avez cédé à la tentation de citer Jean de la Croix dans sa langue, cet espagnol du XVIe siècle. Ouais. Et je voudrais pas qu'on termine cette émission sans que vous nous disiez un mot sur, justement, le poète. Alors non plus, on a beaucoup parlé du mystique, mais sur... ce qui fait que Jean de la Croix, c'est Jean de la Croix. Frédéric vient de nous dire que, évidemment, il faut changer de regard et on ne voit plus les choses autrement après avoir traversé cette nuit et être entré dans la vision divine. Mais j'ai l'impression quand même que s'il le dit en poème, c'est parce que d'un côté, ça déborde de lui, mais aussi parce que d'un coup, le poème devient aussi un moyen pour celui qui le lit de changer de regard, d'entrer dans cette même dynamique que celle qu'a vécu Jean de la Croix.
Tout à fait. Je crois que, si vous voulez, c'est là ce dont on n'a pas parlé, mais on ne peut pas tout dire, c'est que Jean de la Croix était un grand pédagogue. Hein. Il ne s'est pas contenté d'écrire des poèmes, d'en faire le commentaire. Et c'est quand même quelqu'un qui a constamment conseillé, à qui on a demandé, les carmélites en particulier, étaient très preneuses. Il avait des filles spirituelles chez les carmélites. Thérèse d'Avila est peut-être... Il avait parmi les carmélites des personnes qui l'ont beaucoup plus approché que Thérèse. Hein. En particulier Anne de Jésus, hein, qui a fondé après le Carmel plus loin, hors d'Espagne. Mais donc... qu'est-ce que faisait Jean de la Croix quand il avait à parler de Dieu ou quand on lui demandait ? Il faisait lire ses poèmes. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on lui a demandé de commenter ses poèmes. Hein. Donc, c'est Anne de Jésus qui lui a demandé de commenter le Cantique spirituel. C'est Anne de Penalosa qui lui a demandé de commenter la vie flamme. Donc, ces commentaires sont nés, si vous voulez, ce sont des commentaires pédagogiques dans lesquels il avait en tête les gens qui lui avaient demandé aussi de commenter ça. Et donc, dans son esprit, le poème n'est pas seulement l'effusion un peu lyrique de ce qu'il vit, mais c'est aussi le moyen de partager, et il pense que c'est le moyen qui va le plus loin, qui est le plus capable de faire partager son expérience. Donc là, il y a quelque chose de très fort.
D'où son caractère, d'ailleurs, très visuel et visionnaire, c'est-à-dire sa poésie est vraiment saturée d'images, comme s'il nous proposait d'entrer dans une vision par cette simple évocation.
Voilà, voilà. Et il a lui-même sur ses poèmes, autant il est un apôtre de l'apophatisme, de l'agnosticisme, etc., autant il est très élogieux. Dès qu'il s'agit de parler de poésie, là, il retrouve vraiment, il dit oui, mais c'est ça qu'il faut dire, quoi. C'est comme ça qu'il faut le dire, voilà.
Oui, c'est le cas d'ailleurs d'un très grand nombre de poètes mystiques. Et peut-être que, à nouveau, on va le faire entendre, mais juste un dernier mot un peu technique avant de lire la flamme d'amour vive. Est-ce que c'est vrai que lui, comme Thérèse d'Avila, du fait qu'ils ont écrit dans cette langue vernaculaire, en fait, du XVIe siècle, et non pas en latin, a eu une influence très importante pour l'avènement, en fait, de l'espagnol comme langue à part entière et langue littéraire?
Alors là, je ne pourrais pas vous dire des choses. Enfin, mes connaissances en linguistique ne sont pas suffisantes pour voir l'impact exact que ça a eu. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que dès le départ, enfin, dès qu'il a été pris en considération, sa poésie a été reconnue comme un des sommets de la poésie. Hein, et aujourd'hui, c'est encore le cas. Et vous connaissez un peu l'espagnol, non ?
Non.
Non. Mais il y a une musicalité, il y a quelque chose que mes traductions en français ne donnent pas, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je pense que si vous écoutez ça, même peut-être en ne connaissant pas l'espagnol, vous sentirez des choses, je crois.
Oui, absolument. Même à la lecture, quand on ne connaît pas l'espagnol, on sent qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement la compréhension.
Alors, il est lui-même, je complète un peu, il est lui-même quand même au carrefour de trois traditions poétiques. Hein. Sa poésie n'est pas tombée toute cuite du ciel. Hein. Il a été... il y a le Renacimiento, donc il y a la Renaissance, la poésie lettrée de la Renaissance. Il y a les romanceros espagnols, il a pris, mais il a beaucoup. Il y a le Cantique des Cantiques, bien sûr. Et puis, il y a son propre génie, quoi. Mais il est... Voilà.
Oui. Et sa propre expérience, parce qu'au fond, il n'y a peut-être pas de très grande poésie sans une expérience intérieure aussi vaste. Et malheureusement, on est obligé de le lire en français, mais voici donc la flamme d'amour vive en français. Ô flamme d'amour vive, qui tendrement me blesse au centre le plus profond de mon âme. N'ayant plus de rigueur, achève, si tu veux, romps la toile de ce rencontre heureux. Ô cauter suave, ô délicieuse plaie, ô douce main, ô touche délicate qui a goût d'éternité, et toute dette paix, tuant, la mort en vie tu as changé. Ô torche de lumière, dans les splendeurs desquelles les très profondes cavernes du sens qui étaient obscures, aveugles, par d'étranges faveurs, donnent à l'ami clarté et chaleur. Que doux et amoureux tu t'éveilles en mon sein, où toi seul en secret à ton séjour. Ton souffle savoureux, plein de gloire et de bien, que délicatement il mène amour.
Eh bien, c'est sur ce poème que nous allons clore cette émission. Je rappelle donc votre livre Alain Delaye, Jean de la Croix, sage poète et mystique, collection Point Sagesse au Seuil. La musique que nous avons entendue, que vous nous avez amenée, c'est donc un disque qui s'appelle La Nuit Obscure, musique de Vicente Pradal chez Virgin. Et puis il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu nous faire partager cet itinéraire mystique de Jean de la Croix. Merci à vous.
Merci à vous aussi.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.